Les podcasts de Ciel et Espace en compagnie de Patrick Michel, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable du groupe de planétologie dynamique. On parlait, Patrick, de ces collisions dans la ceinture d'astéroïdes. Pour reprendre fil de notre conversation, peut-être une petite question très simple. Est-ce que les météorites que nous recevons sur la Terre, qu'on collecte quand ils sont tombés, ont un rapport avec ces astéroïdes? Est-ce que ce sont des morceaux d'astéroïdes? Est-ce que ce n'est pas le résultat de collisions qui ont lieu entre Mars et Jupiter?
Alors tout à fait. Les météorites sont les seuls morceaux de rocher qu'on a à disposition sur Terre pour étudier ce que sont les astéroïdes. Puisqu'effectivement, c'est du matériau qui, au départ, appartenait à un astéroïde plus gros, qui s'est cassé dans la ceinture des astéroïdes parce que tous ces astéroïdes subissent des collisions les uns avec les autres. Ouais. Cette ceinture d'astéroïdes, en fait, est une ceinture qui évolue au cours du temps. Elle n'est pas du tout statique. C'est une ceinture dans laquelle il y a des collisions qui se produisent, des objets qui sont envoyés vers la Terre ou sur Terre. La plupart, d'ailleurs, se terminent dans le Soleil. Pour 60% d'entre eux, certains sont éjectés au-delà de l'orbite de Jupiter. Donc c'est une ceinture en évolution constante qui perd de sa population petit à petit. Mais bon, il y en a tellement qu'on a encore du temps. Mais c'est vrai que petit à petit, elle se dépeuple. Et ces météorites sont donc en fait les petits reliquats de ces collisions qui ont lieu dans la ceinture et qui de temps en temps nous envoient du matériau et certains d'entre eux rentrent sur Terre. Cela dit, elles nous apprennent des informations très riches au niveau, par exemple, c'est comme ça qu'on a pu dater la Terre, etc. On fait des mesures de rapport isotopique. Des gens en France, le François Robert, Bernard Marty, etc., étudient beaucoup ça, et c'est grâce à ça qu'on a pu dater la Terre. Claude Allègre aussi, notre ancien ministre, a contribué là-dessus. Et donc, moi, je suis toujours fasciné de voir, à partir de ces bouts de cailloux, et même d'un micromètre de ce bout de cailloux, ce qu'on peut apprendre. C'est absolument fascinant.
Mais on se rend bien compte de la diversité, parce que quand on va dans un musée, au Muséum national d'histoire naturelle, par exemple, on se rend compte qu'il y a des morceaux de roches, mais vraiment très friables, et puis qu'il y a à côté de cela des météorites qui sont en acier trempé, si je puis dire.
Exactement, il y a des météorites de fer, d'ailleurs beaucoup trop par rapport à ce qu'on supposait. Les astéroïdes, la plupart, on pense qu'ils n'ont pas subi de processus de différenciation, c'est-à-dire que le matériau lourd étant allé à leur centre et les éléments volatiles sont restés à la surface, parce que pour ça, il faut avoir une taille suffisante. Et on estime, alors il y a un débat là-dessus. J'entendais récemment un collègue qui me disait, un expert, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu au-delà de mon expertise, mais il disait que on peut avoir des objets différenciés qui font à peine quelques dizaines de kilomètres de diamètre selon où on est près du Soleil ou non. Et il y en a qui disent non, il faut être au-delà de 200 km de diamètre. Alors il y a un débat là-dessus. Cela dit, c'est vrai que dans la ceinture des astéroïdes, tous les objets qu'on voit, on n'a pas suffisamment de matériaux ferreux pour comprendre comment on a eu autant d'objets de météorites de fer sur Terre. Alors maintenant, il y a un scénario qui pourrait peut-être nous permettre d'expliquer ça, mais c'est encore un problème, tous ces météorites de fer. Et c'est vrai que du coup, on a une grande variété de météorites qui vont de météorites donc de fer à des météorites très poreuses. Cela dit, on a quand même un biais. Parce que malgré tout, on n'est pas sûr qu'on ait une représentation représentatif de ce qu'il y a dans la ceinture des astéroïdes, parce que on a une sélection qui est produite parce qu'il arrive à rentrer dans l'atmosphère, à aller sur Terre. Et on sait de toute façon qu'on n'a à disposition que les éléments les plus robustes qui ont pu passer ce filtre qui est l'atmosphère, et que peut-être que la population qui domine au-delà de l'atmosphère est beaucoup plus poreuse, et simplement on ne reçoit que ceux qui ont permis qui ont pu résister à cette traversée.
Alors revenons à ces collisions dans la ceinture d'astéroïdes entre celles dont on observe les conséquences et celles dont on simule la réalité dans les laboratoires. Aujourd'hui, les deux se rapprochent. J'imagine qu'on ne voit pas de collision en direct dans la ceinture, mais
malheureusement,
mais entre ce que vous calculez et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est bien corrélé, ça fonctionne bien. Vous avez une très bonne idée de la façon dont ça s'est passé dans l'espace et dans le temps.
Alors, en dépit de toutes les incertitudes qu'on a sur nos simulations, puisque la fragmentation d'une roche est encore un phénomène très mal compris, encore plus quand il y a de la porosité. C'est d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas un modèle de fragmentation de corps poreux qui a été validé. On est en train de travailler là-dessus, justement, avec mon collègue Willy Benz de l'Université de Berne. Eh bien, en dépit de ça, on pense quand même avoir réussi à monter un scénario et des simulations qui nous permettent d'expliquer ce qui se passe. qualitativement au moins, peut-être pas quantitativement, mais qualitativement. En d'autres termes, donc on a essayé de reproduire les familles d'astéroïdes, qui sont donc ces groupes de corps dans la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, qui partagent les mêmes propriétés, enfin ils sont à peu près dans la même région de l'espace, et les mêmes propriétés de composition. Et on a essayé de les reproduire par simulation. Et ça, c'était quelque chose de nouveau, parce que quand on regarde les expériences de laboratoire qui sont faites sur des corps centimétriques, si on essaie d'extrapoler ce que l'on obtient dans ces expériences à des échelles plus grandes, simplement par un redimensionnement, on avait un paradoxe. On avait un paradoxe parce que les expériences de laboratoire nous disaient la chose suivante. Si je veux casser un corps de quelques centaines de kilomètres de diamètre et produire une famille telle que je l'observe, avec des objets relativement dispersés, puisque même si ce groupe partage les mêmes propriétés dans l'espace, il y a quand même une dispersion. C'est un groupe, c'est pas qu'un seul corps. Eh bien, les expériences disaient qu'il faudrait une énergie telle que je devrais pulvériser le corps. Et donc, je devrais rien voir. Pour produire une telle dispersion, tous les fragments devraient être très petits. Or, on observe des membres de famille, si on arrive à les observer depuis la Terre, c'est qu'ils sont encore suffisamment massifs. Alors, elle disait, maintenant, si je veux reproduire la taille des membres de ces familles, ben en fait, l'énergie ne serait pas suffisante pour les disperser. Donc, soit je disperse un corps, mais je ne vois rien, ou alors je produis des fragments qui ont la taille de la famille, mais je ne vois pas une famille non plus, parce que tous ces corps devraient rester sur le corps initial. Donc, il y avait un paradoxe. Et nous, on s'est dit, mais il y a un ingrédient qui doit manquer quand on passe de l'échelle du centimètre à l'échelle de plusieurs kilomètres de diamètre, et l'élément, c'est la gravité. La gravitation, les forces d'attraction.
Ça veut dire que ces corps se recomposent après ces corps se recomposent.
Évidemment, quand on casse un corps de 1 cm, une fois qu'on l'a cassé, les fragments, ils font quoi ? Quelques millimètres, ils ne ressentent pas leur attraction mutuelle. L'attraction est négligeable. Par contre, quand on casse un corps de quelques centaines de kilomètres de diamètre, même quelques dizaines, les fragments qui peuvent encore être de taille de quelques centaines de mètres, et ça c'était quand même notre surprise, on ne s'y attendait pas, hein, mais ont un pouvoir d'attraction les uns avec les autres suffisant pour qu'ils se réattirent et qui se réagglomèrent, et effectivement cette réagglomération, au bout du compte, ils reforment des corps plus gros. Donc finalement les expériences de laboratoire n'étaient pas fausses, enfin je veux dire l'extrapolation n'était pas fausse. Effectivement au départ le premier processus quand on casse le corps, il est pulvérisé. Mais simplement il y a une chose qui se passe après, qui est qu'à l'issue de cette pulvérisation, les fragments sont encore suffisamment gros, encore trop petits pour expliquer la famille, mais suffisamment gros pour se réattirer les uns les autres et faire regrossir des corps qui vont du coup être à la fin de la taille des membres de la famille qu'on observe. Donc on a vraiment deux processus, fragmentation et attraction gravitationnelle, qui peut réaccumuler des corps. Et ça, ça a une implication assez forte, parce que si ces simulations étaient réalistes, eh bien, elles avaient comme implication que, comme la plupart des corps actuels moins de 50 km de diamètre dans la ceinture sont probablement au moins de seconde génération, c'est-à-dire qu'ils ont subi ce processus de collision et de réaccumulation, nous, ce qu'on prédit, c'est qu'ils devraient tous des agrégats, puisque tous ont subi ce processus de réaccumulation durant les 4 derniers milliards d'années. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils sont des agrégats, ils sont remplis de vide, c'est plus des corps monolithiques, comme les corps initiaux.
Par agrégat, vous entendez agrégé.
Agrégé, voilà, qui sont produits par réagglomération. Ce qu'on appelle un agrégat, c'est un corps... Alors là, encore, il y a un débat, qu'est-ce qu'on appelle un agrégat ? Mais pour nous, la vision qu'on a, c'est que c'est un corps formé de rochers qui ne sont maintenus ensemble que par leur attraction. Il n'y a plus de force de cohésion matérielle qui les lie entre eux. Chaque rocher a sa cohésion matérielle, mais ce qui fait qu'un rocher est à côté de l'autre, c'est parce qu'il est attiré par l'autre. Alors, ils sont attirés les uns les autres.
Est-ce que c'est ça que les missions spatiales ont découvert quand presque deux siècles après qu'on a découvert le premier astéroïde, finalement on est approché un objet de ce type-là ?
Alors absolument, c'est-à-dire que depuis le sol, on n'avait aucun moyen de vérifier si ces corps sont des agrégats, puisque depuis le sol, encore une fois, on ne peut pas contraindre la forme, la masse, on ne peut rien faire. Et quand on est allé dans l'espace, alors déjà, toutes les missions spatiales, il y a eu Galileo qui a fait un premier survol de deux astéroïdes en allant vers Jupiter, Gaspra et Ida. Donc déjà en 93, Galileo va voir deux objets, c'était une mine d'informations. On découvrait d'ailleurs que l'un d'entre eux avait un satellite, un petit objet de 1 km qui tournait autour d'un corps de 52 km de forme très irrégulière. On se demandait comment l'objet pouvait être stable autour. Donc déjà, première chose. Ensuite, en 98, on a eu la mission NIR qui est allée observer Eros, qui est partie en 96 de Cap Canaveral. Elle a fait un premier survol en 98 d'un objet de 50 km de diamètre qui appartient à la ceinture des astéroïdes. Et là encore, deuxième surprise, la densité de ce corps, qui fait 50 km de diamètre, est à peine plus grande que celle de l'eau, alors que c'est un rocher. 1,3 g par centimètre cube, l'eau c'est 1 g par centimètre cube. Bon. Et là on s'est aperçu qu'on avait affaire à une population qui pouvait être très variée, puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est que les deux satellites qui avaient été observés par Galileo en 93 avaient une densité de 2,7 g par centimètre cube, donc proche de 3 g. Et là on trouvait un corps de 1,3 g par centimètre cube, donc un facteur la moitié. Et en plus, une forme complètement... Il avait 5 cratères sur sa surface de 5 km de diamètre. Or, on pensait à l'époque qu'une collision qui produirait des cratères de ce genre, en fait, ça ne pourrait pas se produire. Le corps aurait dû être cassé. Il avait réussi à absorber l'énergie de telle manière qu'il arrive à avoir 5 cratères de cette taille sur sa surface. Et ça, c'était une chose qu'on... Ça avait fait le débat dans un workshop dans lequel j'étais allé sur les collisions, un atelier de travail qui était dans l'Oregon, dans l'hôtel où avait été tourné le film Shining avec Jack Nicholson. Donc déjà, c'était un peu... Alors en plus, avec ce débat, un corps sombre, en plus, il était très noir. Mathilde est un corps de type C, très carboné, très sombre, avec une forme un peu bizarroïde. Et ces 5 cratères sur la surface, ça avait... Et donc, effectivement, grâce aux missions spatiales, on a pu...
Eros, pardonnez-moi, mais
alors, Eros, lui
qui était
aussi...
la destination de la mission,
qui est donc le croiseur de la Terre de 23 km de diamètre, un des plus gros, enfin il croise l'orbite de Mars, pas tout à fait celle de la Terre actuellement, mais il va la croiser, 23 km de diamètre quand même, forme de cacahuète bizarroïde, et qui avait une densité, encore une fois, de 2,7 g par centimètre cube. Tous ces objets-là, d'ailleurs, ont des densités qui sont plus faibles que les densités de grains rocheux sur la Terre, par exemple. Hein, je sais pas, le basalte, ça doit être 4 ou 5 grammes par centimètre cube. Et là, on a toujours des densités qui sont beaucoup plus faibles que des densités de roches monolithiques. Donc, on avait là des indices comme quoi, effectivement, ces objets-là ont un certain degré de porosité. Et une manière d'expliquer cette porosité, c'est qu'effectivement, si ce sont des objets qui sont des agrégats plutôt que des corps monolithiques, à ce moment-là, on explique le fait qu'ils ont une densité plus faible que la densité d'une roche monolithique. Et notre scénario de production de fragments qui seraient agrèges, pour le coup, était, entre guillemets, validé. Enfin, c'est une première validation par ces mesures-là de densité.
Alors, il y a eu, Patrick Michel, des missions spécifiques à destination d'astéroïdes. D'autres, comme vous le disiez, ont profité d'un trajet pour visiter quelques astéroïdes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, tous par an, mais en même temps, tous différents, c'est-à-dire chacun ayant eu leur histoire dans le système solaire qui transforme à la fois leur forme et leur composition?
Ah, tout à fait. Ils sont tous liés, puisque finalement, bon, ils viennent tous du même système solaire, etc. Mais à chaque fois qu'on va rendre visite à ces objets, on apprend des choses, parce qu'ils sont tous tellement différents. Et à chaque fois, non seulement on apprend des choses, mais on bouleverse nos connaissances, puisqu'il y a plein d'idées qu'on avait qui ont été invalidées. C'est absolument fabuleux. Et c'est vrai que c'est pour ça que on a un grand débat quand on propose des missions spatiales. Est-ce que, bon, voilà, on est allé rendre visite à Eros, qui est un objet de type S. Est-ce qu'il faut retourner vers un objet de type S? Eh bien, oui. Par exemple, la mission Hayabusa, qui est allée prendre un échantillon d'astéroïdes pour le ramener sur Terre. Donc là, c'est aller prendre un échantillon d'ADN de notre système solaire. L'astéroïde en question était Itokawa.
Racontez-nous.
Alors, cette mission, en fait, a démarré dans les années 90 et devait aller sur un objet. La cible a changé parce qu'il y a eu des retards. C'est toujours le problème, d'ailleurs, dans ces missions-là, c'est qu'on est toujours soumis à des retards, des réductions budgétaires qui font qu'il faut pouvoir être assez souple pour pouvoir changer de route. Et là, ils ont donc eu comme cible un astéroïde qui s'appelle Itokawa, qui était un ingénieur japonais en aéronautique. Et Itokawa fait 500 mètres de diamètre. Et l'idée, c'était d'aller prendre un échantillon de cet astéroïde pour le ramener sur Terre, puisque on veut pouvoir avoir un échantillon qui n'a pas subi d'altération traversée dans l'atmosphère ou de sélection dans l'atmosphère, du fait que peut-être que les astéroïdes qui sont les plus représentatifs n'ont pas la chance de résister, enfin la chance pour nous, oui, ils l'ont, parce qu'au moins on est protégé, mais ils n'ont pas la chance de résister à traverser. Donc on va aller vérifier sur place. Et ils ont eu cette idée d'aller faire une mission de retour d'échantillons sur donc cet astéroïde-là. Et la mission est partie en 2003, en mai 2003, du Japon. Et elle a subi énormément de péripéties. Les pauvres n'ont pas eu de chance. Et surtout, ils ont mis la barre haute, puisque chaque phase de cette mission était un challenge technologique à démontrer, aussi bien le mode de propulsion qui est
moteur ionique
à gaz xénon, qui est vraiment très incertain, surtout pour aller vers un astéroïde. C'est une propulsion continue sur laquelle on ne peut pas jouer. Ensuite, à l'approche de l'astéroïde, à 5000 km, on arrête et puis là, on se met en phase autonome, c'est-à-dire que le satellite va lui-même s'auto-guider. Donc, parce que depuis la Terre, le temps que le signal met à venir, à repartir...
Il était à
quelques centaines de millions de kilomètres. Centaines de millions de kilomètres de la Terre. Donc, le signal mettait quelques minutes. Donc, il fallait un processus d'autoguidage. En plus, cet objet-là, on n'avait aucune idée de sa forme réelle, puisque depuis la Terre, c'est un objet en plus qui est tout petit, 500 mètres. Donc, il fallait que le satellite de lui-même, fasse un modèle de forme pour pouvoir s'approcher de manière sans pouvoir rentrer dedans ou avoir des orbites, des trajectoires instables. Tout ça, ça a été fait in situ. Tout a été... Alors en plus, il y a eu une éruption solaire qui a dégradé les panneaux solaires. Il a eu aussi deux roues de réaction, enfin en gros deux axes du gyroscope qui ont cassé. Bon, le truc complètement bancal. Et malgré tout, ils ont
réussi... Sans se mettre en orbite autour.
Se mettre en orbite, parce qu'en fait, l'idée, c'était de rester à proximité de l'objet en le suivant quelques kilomètres. Se mettre en orbite était un peu compliqué, surtout qu'on n'avait pas idée de la forme. Et donc, il restait à quelques kilomètres de la surface de l'objet. Il a pris des images à haute résolution. Alors, cet objet tourne sur lui-même en 12 heures. Donc, ça permettait, tout en restant à proximité sans se mettre en orbite, de quand même couvrir la totalité de la surface de l'objet avec des milliers d'images qui ont été obtenues. Et ensuite, il fallait se poser donc sur l'astéroïde. Et là, les méthodes, les techniques d'échantillonnage d'un objet, c'est extrêmement compliqué. Il ne faut pas oublier que ces objets-là, ce sont à chaque fois des challenges pour les missions spatiales, parce qu'on est dans un environnement qui est complètement différent de celui de la Terre ou même de Mars, puisque ce sont des objets dont le pouvoir d'attraction est très faible. La vitesse de libération, c'est-à-dire celle qui fait que si on saute, on ne retombe pas, c'est quelques centimètres par seconde. Autrement dit, s'il y avait pour peu qu'il y ait de l'air, j'éternue, je ne retombe pas. Donc, ça ne pardonne pas l'erreur. Ils ont voulu, par exemple, lancer un petit robot sur la surface de cet astéroïde. C'était un petit ballon de quelques 1 kg et qui devait prendre des images avec des webcams qui étaient dans ce ballon. Ils ont raté de quelques secondes le lancement, et le robot a raté l'astéroïde. Parce que contrairement à la Terre, le robot, si ça a été à proximité de la Terre, le pouvoir d'attraction de la Terre est si fort que la trajectoire serait devenue parabolique, aurait défléchi et il serait tombé. Sur un astéroïde, vous visez là où vous devez tomber quasiment. Hein. Par exemple, il a raté. Et de la même manière, pour les techniques de récolte d'échantillons, c'est très compliqué. Parce que certains ingénieurs, d'ailleurs, parfois, je vais discuter avec des ingénieurs là-dessus, parce qu'on a un projet d'en refaire une, et ils arrivent avec des techniques au départ. Ils disent, c'est simple, il n'y a qu'à balancer, pour faire un trou dans l'astéroïde, on va balancer un petit harpon. Et puis voilà. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils balancent le harpon, la réaction du satellite face à l'impact du harpon sur le sol de l'astéroïde fait que le satellite, il va être éjecté. Alors qu'effectivement, quand on est sur Mars ou sur la Terre, il n'y a pas de problème. De même, on veut poser un robot sur un astéroïde. A priori, ouais, on va dire, voilà, on pose simplement le robot. Non, il faut l'harponner. Parce que sinon, la moindre vibration sismique fait qu'il peut repartir en orbite.
Alors, est-ce que la sonde a réussi à se poser, à prélever des échantillons et à revenir sur Terre ?
Alors, elle a réussi à se poser, mais trop bien. Parce que du coup, elle devait en fait se poser à peine quelques secondes, lancer un petit projectile sur la surface pour récolter les éjectats, les fragments dus à l'impact, puisque là, c'est encore une fois, comme il y a très peu de gravité, il suffit d'un petit projectile lancé à 300 mètres par seconde, et pour peu que l'objet ne soit pas complètement poreux, ça encore, c'est encore incertain. Imaginez de la pâte à modeler, si c'est de la pâte à modeler, vous lancez un projectile, le projectile s'enfonce et il n'y a aucun éjectat. Ça, on ne savait pas. Donc, il y a encore des hypothèses là-dedans. Mais bon, on avait bon espoir que ça produise des éjectats, et ces quelques grammes d'éjectats rentraient dans le satellite et on repartait. Le malheur, c'est qu'elle s'est posée, mais elle est restée 30 minutes sans qu'on ait d'ailleurs de signal, parce que l'antenne était mal orientée quand elle était sur la surface de l'astéroïde par rapport à la Terre, et on n'avait plus de signaux, et au bout de 30 minutes, elle est repartie. Ce qui est d'ailleurs, enfin, c'est assez fantastique quand même, parce que tout ça s'est fait de manière complètement autonome. Il y a eu plein de choses comme ça, parce qu'on l'a fait courte, hein, mais il y a eu des péripéties énormes. Là, au bout de 30 minutes, alors qu'il fait très chaud sur la surface de l'astéroïde, puisque l'astéroïde réémet cette chaleur produite par le Soleil, ça a produit un trou sur le satellite, donc une fuite de carburant, et malgré tout ça, il est reparti. Puis, bon an, mal an, il s'est remis là où il fallait. Et franchement, les ingénieurs disent qu'il y a de la magie là-dedans. Hein.
C'est pour ça que les Japonais croient aux fantômes.
Oui, on pourrait. Ouais, y a un fantôme caché là-dedans qui nous a aidés, ou la main de Dieu. En tout cas, il y a eu quelque chose, ou Bouddha, qui était là. Mais le satellite s'est remis, mais il est resté 30 minutes. Et on pense que le projectile n'a pas été envoyé, mais que le seul impact du satellite sur la surface de l'astéroïde a pu envoyer, mettre des éjectas dans la petite chambre qui doit en récolter. Et là, cette sonde est maintenant en train de repartir pour, on l'espère, revenir sur Terre en 2010, éventuellement avec des échantillons ou non, ça sera la grande surprise. Mais indépendamment de ça, et là-dessus j'insiste énormément, cette mission nous a apporté une mine d'informations. Et c'est pour ça que je dis, ces missions-là, à chaque fois, comme tous ces objets, pour revenir à cette question, est-ce qu'ils sont tous différents ? Eh bien oui, tous ces objets ont leur propre histoire dans le système solaire. Ils ont subi des processus collisionnels différents, des fréquences d'impact différentes. Donc à chaque fois, en plus, tous ceux qu'on va voir ont toujours des tailles différentes. Et donc leur attraction est différente. Donc leur comportement par rapport aux mêmes lois de la nature sont différentes. Par exemple, vous aurez beaucoup plus de cratères sur un objet de 50 km de diamètre ou même de rochers sur sa surface que sur un objet comme Itokawa qui est beaucoup plus petit. Donc on peut supposer que tous les impacts vont éjecter de la matière et cette matière aura suffisamment de vitesse pour ne pas retomber. Et en fait, d'ailleurs, on s'est aperçu que c'est faux. Itokawa est encore plus peuplé de débris qu'un objet comme Eros ou Ida. Donc ça contredit complètement tout ce que je viens de dire il y a une minute. Qui était basé sur notre réflexion qui disait bon ben plus qu'il y a moins de gravité, moins d'attraction, à chaque fois qu'on fait un impact, tous les rochers vont s'échapper, ils vont pas retomber. Or Itokawa est peuplé de rochers. Donc ça nous a soulevé plein de questions. Pour le coup, il a vraiment la tête d'un agrégat de rochers les uns autour des autres. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois aller étudier des objets différents, ça sera jamais redondant. Parce que ça va nous apprendre des choses sur l'histoire passée des collisions dans le système solaire et sur les comportements de ces rochers. Donc, c'est jamais raté.
Merci Patrick Michel, merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous évidemment au prochain épisode.